est 6h19, une pluie de dollars. Voilà ce que promet Donald Trump aux Palestiniens. C'est sa façon à lui de promouvoir la paix au Proche-Orient. Ce plan des États-Unis fait l'objet d'une conférence internationale qui s'est ouverte hier à Manama, la capitale de Bahreïn. Bonjour Xavier Guignard.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et chercheur sur la Palestine à Noria. Le président américain n'a pas fait le déplacement. Il a envoyé son gendre et conseiller, Jared Kushner, qui s'est exprimé hier. Il a présenté ce plan comme étant l'occasion du siècle. Vous le pensez aussi ?
Alors non, et lui non plus ne le pense pas. La conférence à laquelle il a convié hier une grande partie des parties au conflit est finalement devenue un groupe de travail, puisque les invités ne sont pas venus. Une grande partie des gens qui étaient attendus ne sont pas venus, à commencer par les Israéliens qui ont finalement été désinvités à la fin, les Palestiniens n'étant pas conviés, mais une partie des pays arabes qui étaient conviés n'ont pas fait le déplacement. Donc Jared Kushner s'est exprimé devant une salle à moitié vide pour présenter un plan qui effectivement est censé être l'occasion du siècle pour les Palestiniens et les Israéliens d'arriver à la paix. Mais en réalité, c'est une première étape dont on ne connaît pas la suite pour un investissement massif en Palestine, dont on peut détailler un petit peu les ressorts.
C'est donc 50 milliards de dollars, c'est ça, un peu plus de 40 milliards d'euros qui doivent être récoltés. À l'occasion notamment de cette conférence ou un peu plus tard aussi ?
Alors la conférence doit faire effet d'annonce, où des pays donateurs pourraient annoncer un investissement probable, mais en aucune façon. Ça peut devenir réalité demain, puisque, et c'est le cœur du problème de cette conférence, la réalité aujourd'hui de l'économie palestinienne, complètement imbriquée sous l'occupation israélienne, ne peut pas recevoir cet afflux monétaire, puisque c'est les Israéliens qui contrôlent l'entrée et la sortie des flux en direction des territoires palestiniens.
Et sur ce point, alors qu'ils disent quoi les États-Unis ? Ils disent quand même que cet argent va permettre de doper l'économie palestinienne ? Ou alors ils demandent aux Israéliens de faire en sorte d'utiliser cet argent pour doper l'économie palestinienne ? Comment ça va se passer ?
Alors le plan qui est sorti, puisqu'on a eu une version d'un document d'une quarantaine de pages la semaine dernière, est vraiment le volet économique de ce deal du siècle, dont on attend encore le volet politique. Donc pour l'instant, on est obligé de parler uniquement de la jambe économique, sans pouvoir savoir sur quelle réalité économique Kushner s'est appuyé. Mais ce plan nous dit déjà nous donne quelques pistes pour comprendre ce qui s'y joue. À aucun moment on nous parle d'Israël. Strictement à aucun moment. Il n'est question que de doper une économie palestinienne. À la lecture de ce rapport, on peut s'imaginer une Palestine qui n'existe absolument pas, qui serait finalement un pays sous-développé, dont le seul et unique besoin est l'ouverture d'un marché et le renforcement des capacités d'un secteur privé.
Donc c'est quoi ? Très concrètement, cet argent, il va servir à quoi ? À construire des hôpitaux, des écoles, des choses comme ça ? Ou c'est quoi dans l'idée des Américains ?
Alors il y a le renforcement dans un premier temps de la capacité de l'économie palestinienne à s'appuyer sur un secteur privé fort. C'est le premier pilier de cet accord. Le second, c'est l'investissement dans ce qu'ils ont appelé le capital humain, donc dans l'éducation. Et le troisième, c'est le renforcement des institutions publiques palestiniennes dédiées au secteur privé. Voilà les trois piliers qui ne prennent pas en compte en aucune façon la réalité économique et la réalité politique de la Palestine. Je prends un seul exemple. L'investissement qui est proposé dans l'éducation semble faire fi du fait que malgré l'occupation, la Palestine est le second pays arabe en termes d'éducation, y compris des femmes, dans le supérieur. Le problème n'est évidemment pas dans l'éducation, mais dans les débouchés qu'on peut avoir. Et le plan de paix, qui n'est d'ailleurs pas là un plan de paix, qui est un plan d'investissement américain, encourage effectivement un investissement massif en Palestine pour le développement de son secteur privé et l'ouverture, et on peut y revenir, de l'économie palestinienne dans l'économie régionale.
C'est-à-dire justement ça, c'est le but du jeu, c'est que ce soit, il y ait plus d'échanges et que la Palestine dépende moins d'Israël ?
Alors, encore une fois, on ne parle jamais d'Israël dans ce plan. Or, l'économie palestinienne est complètement imbriquée dans l'économie israélienne. Si on ouvre au marché régional l'économie palestinienne, on ouvre au marché régional l'économie israélienne. Et c'est peut-être là ce qui s'y joue, sans nous le dire. Quand le plan propose un allègement des barrières douanières, à une meilleure connexion en termes de système de route et de transport ferroviaire entre l'économie palestinienne, qui d'ailleurs sont multiples entre Gaza et la Cisjordanie, et le voisinage immédiat, c'est en réalité l'économie israélienne que l'on branche sur la région.
D'accord, donc en fait, Donald Trump, sous couvert de favoriser les Palestiniens, il fait un cadeau aux Israéliens en leur ouvrant des marchés à côté. c'est ça ?
De toute façon, depuis 1993, depuis les accords d'Oslo, l'aide qui est accordée aux Palestiniens revient, on estime, entre 60 et 63% dans l'économie israélienne. Donc là, il n'y a pas raison de penser que ça va changer. Ce qui tombe dans l'économie palestinienne, de par sa nature aujourd'hui complètement imbriquée, revient dans l'économie israélienne. Donc ces 50 milliards vont être un investissement massif, y compris dans l'économie israélienne.
Mais vous ne voyez rien de positif quand même dans cette initiative américaine qui permet quand même qu'on reparle de ce conflit israélo-palestinien qui avait été un peu mis au second plan avec d'autres conflits dans la région. Là, au moins, on en reparle et il y a peut-être des gens qui vont se retrouver à la table et qui peuvent eux aussi peut-être après proposer d'autres solutions.
Complètement. De ce point de vue-là, l'accord est intéressant puisqu'il force les autres puissances, y compris l'Union européenne, à se positionner. Ça fait 2 ans que l'administration américaine nous dit travailler sur ce plan. 2 ans que son silence, l'absence de communication autour des paramètres, avait gelé toute position des autres acteurs internationaux. Là, maintenant, ils ont un document sur lequel se positionner, et ça c'est positif. C'est ce qu'on a vu par ailleurs dans les réactions des pays arabes, qui se positionnent en majorité contre, puisqu'il fait fi, cet accord, de toute solution politique.
Et ça c'est d'ailleurs ce que reprochent les Palestiniens.
Complètement, on a un accord qui évacue la question de Jérusalem, qui n'est jamais mentionnée. L'économie palestinienne s'incarne en Cisjordanie et à Gaza, donc le plan américain fait fi du territoire de Jérusalem-Est. On ne parle jamais d'un État palestinien, ce qui est une première dans la diplomatie américaine, de ne même plus faire référence à la question d'un État palestinien. Alors on parle d'un secteur public palestinien, mais on ne sait pas sous quelle architecture politique il pourrait s'incarner. Et c'est ce qui fait redouter le pire quant à l'annonce, d'après Kushner, en novembre prochain, des paramètres politiques de cet accord.
Vous parliez tout à l'heure de la réalité politique de la Palestine. Là aussi, c'est un problème. Est-ce qu'il y a un interlocuteur crédible côté palestinien, crédible à la fois aux yeux de l'extérieur et vis-à-vis des Palestiniens ?
Alors le président Mahmoud Abbas siège à la tête d'une autorité palestinienne malgré le dépassement de son mandat depuis 8 ans. Il reste extrêmement crédible pour la communauté internationale, en tout cas crédible au sens où il a toujours été un homme engagé en faveur de l'obtention d'un accord de paix. Il est moins crédible en interne puisqu'il a notamment été un président qui a beaucoup réprimé les demandes sociales de sa population. Il reste considéré par les Palestiniens comme un interlocuteur nécessaire pour parler au reste du monde.
Une dernière question, Xavier Guignard, mais qui n'a rien à voir. L'école où vous enseignez, Sciences Po Paris, a annoncé hier qu'elle abandonnait les épreuves écrites de son concours d'entrée, un sacré chamboulement. Qu'en pensez-vous ?
Alors, on verra à la rentrée ce que ça permet dans la diversité du recrutement de nos élèves. C'est de toute façon une réflexion qu'il est intéressant de mener pour diversifier les profils de nos étudiants, ce qui n'est pas une première. Il y a une ouverture depuis une dizaine d'années des profils de nos étudiants. J'ai la chance d'enseigner aussi beaucoup à des étudiants étrangers qui viennent sur le campus de Paris et donc depuis longtemps d'avoir cette diversité déjà dans mes cours.
Merci Xavier Guignard, enseignant donc à Sciences Po Paris et chercheur sur la Palestine à Noria. Vous étiez l'invité du 5-7.